Une vie, une œuvre. En cette année 2018, année du centenaire de la fin du premier conflit mondial, la fameuse Der des Der, Une vie, une œuvre rend à nouveau hommage à Guillaume Apollinaire, qui, à quelques jours près, aurait pu connaître la fin de cette guerre qui toucha en France près d'un soldat sur cinq. Né le 25 août 1880 et mort le 9 novembre 1918, grand poète du XXe siècle, il participe aux révolutions littéraires et esthétiques de son époque. Défenseur de l'art moderne et conteur, il est l'inventeur du mot « surréalisme » et ouvre une nouvelle voie poétique. Le succès, il le connaîtra en 1913 avec la publication d'Alcool. La même année, son manifeste de défense de la peinture contemporaine, Les peintres cubistes, méditation esthétique, est publié. En novembre 1914, il s'engage dans la Grande Guerre. Blessé, il meurt en 1918, après avoir publié ses calligrammes emportés par une grippe infectieuse.
Si je pense à lui, vont se superposer un certain nombre d'images, à la fois des photographies. Quelques-unes nous sont parvenues, assez floues, un peu ternes quand même, mais où on le voit toujours avec cette espèce de regard un petit peu perdu, un peu noyé, comme s'il regardait au-delà de l'objectif, qu'il regardait ailleurs, qu'il était déjà aussi dans un autre monde en fait.
C'est un prince qui voit sa princesse dans un château de verre qui toujours fuit devant lui. Et alors, il voit cette princesse à travers le verre, et il ne peut jamais l'attraper. J'aime les poètes.
Mon petit loup adoré, je voudrais mourir un jour que tu m'aimes. Je voudrais être beau pour que tu m'aimes. Je voudrais être fort pour que tu m'aimes. Je voudrais être jeune. Jeune. Pour que tu m'aimes.
Une voix, c'est une parole, c'est un rythme.
Il avait un gros rire éclatant et il était très aimable, un peu trop.
J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre.
Alors nous avons parlé naturellement des macaronis exquises, n'est-ce pas? Des macaronis à l'italienne, n'est-ce pas? Tout à fait étonnant.
Parce que les poètes,
avec sa figure longue, ses yeux en parenthèse, et puis sa petite bouche toute petite avec des mains de prélat.
Mais des yeux.
Il ressemblait à Racine.
Le lyrisme en personne, il traînait sur ses pas le cortège d'Orphée.
J'ai cueilli ce brin de bruyère.
Il évoluait, il allait de fleur en fleur, c'est-à-dire de femme en femme, il était content. Et Mac Jacob le suivait en faisant des évolutions et en chantant des chansons.
Nous ne nous verrons plus sur terre.
Guillaume Apollinaire, 1880-1918. L'enchanteur étoilé.
Et souviens-toi. Je t'attends et souviens-toi que je t'attends.
Quand on pense à lui, on pense plutôt à sa dimension solaire. Mais il ne faut pas oublier que le soleil ne brille pas toujours, justement. Et il est justement comme le temps qui passe. Hein, il y a sa dernière pièce qui est très triste, qui s'appelle « Couleur du temps ». Et on pourrait presque dire que d'une certaine manière, il a cette personnalité « Couleur du temps ».
Il y a toute ma vie passée, qui est bien passée. Il y a des rues étroites à Menton où nous nous sommes aimés. Il y a une petite fille de Sospel qui fouette ses camarades. Il y a des wagons belges sur la voie. Il y a mon amour. Il y a toute la vie. Je t'adore.
Laurence Campa, on a tendance à considérer Apollinaire, vu de loin, comme le plus parisien des poètes français. C'est oublier qu'il est né très loin des berges de la Seine, très loin du pont Mirabeau. Dans quelles circonstances ?
Mais au bord d'un autre fleuve, au bord du Tibre, hein, puisqu'il est né à Rome en 1880, le 25 août pour être précis, même si justement il est déclaré à la mairie le 26. Donc sa naissance est déjà voilée d'obscurité et de mystère, parce qu'en fait il est un fils illégitime. Il est le fils d'Angelica de Kostrovitsky, qui est une jeune femme, une demi-mondaine, qui vit de ses charmes et qui a une grossesse non désirée. On ne connaît pas son père, on a inventé beaucoup de choses, on a bâti des légendes. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas précisément qui c'est. Et après tout, tant pis, on pourrait presque dire, parce que lui-même n'a pas véritablement fait de recherche à ce sujet. Sa mère lui a dit qu'il était le fils d'un officier italien. Je pense qu'il s'en est contenté.
Il l'a représenté.
Il l'a représenté, ou voilà, c'est un portrait supposé, parce qu'il avait peut-être besoin justement d'exprimer quand même, de mettre un visage, de donner une forme à ce fantôme.
Créer l'image du père.
Voilà, créer l'image du père, mais ce qui a vraiment compté finalement, c'est de pouvoir s'inventer et se réinventer.
Oui, déjà au collège, Apollinaire dessinait énormément.
Peter Reed.
Il a gagné des prix de dessin au collège. Et on y voit déjà, autour de 1895, quand il avait 15 ans, il y a un dessin, par exemple, qui représente une fenêtre très joliment coloriée. Et on sent qu'Apollinaire, comme Baudelaire, est sensible à la poésie d'une fenêtre qu'on voit depuis la rue. Et on se demande quelle vie se déroule derrière cette fenêtre, derrière ces rideaux, quelle est la vie des gens.
Il passe sa petite enfance en Italie, on le retrouve à Bologne quand il a à peu près 5 ou 6 ans. Il apprend à lire et à écrire en italien avec beaucoup de difficultés, dira-t-il plus tard. Et puis sa mère quitte, on ne sait pas très bien pourquoi, l'Italie, se retrouve sur la Côte d'Azur.
C'est plutôt un bon élève.
Oui, c'est un bon élève, et puis c'est un élève docile, hein, et très pieux. On se souvient des vers de Zone où il raconte justement, il se rappelle priant, voilà, il se rappelle priant avec son ami d'enfance René Dalyse. C'est un enfant plutôt sage, hein. Il est pensionnaire, sa mère n'a pas du tout le temps de s'occuper de lui ni de son frère.
Il forme sa sensibilité aussi au contact de tous ces gens et de ces paysages et de ces senteurs.
C'est surtout effectivement ce qui va beaucoup rester dans sa mémoire, ça va être toute une foule de sensations en fait. Sensations de toutes sortes, effectivement des odeurs, l'odeur du vionis qui est une odeur à la fois, on va dire, appétissante et dégoûtante. L'odeur des pins maritimes, de la mer, la couleur de la mer aussi. Il dira de la Méditerranée que c'est un flot que jamais on oublie. La couleur du ciel. Et puis il va pêcher justement avec son ami James Onimus. Il se promène beaucoup. Il se promène déjà beaucoup.
Et puis il écoute aussi un français un peu particulier, le Nissard.
Oui, alors il y a les dialectes, effectivement, hein, de Menton, de Nice.
Et il l'intègre dans certains de ses textes.
Il en copie même des mots pour s'en souvenir, parce qu'il est très sensible tout de suite, finalement, à la couleur de la langue, aux sonorités.
Te voici à Marseille, au milieu des pastèques. Te voici à Coblence, à l'hôtel du Géant. Te voici à Rome, assis sous un effilié du Japon. Te voici à Amsterdam, avec une jeune fille que tu trouves belle et qui est laide. Elle doit se marier avec un étudiant de Leyde. On y loue des chambres, en latin cubicula locanda. Je m'en souviens, j'y ai passé 3 jours et autant à Gouda.
L'ami Picasso disait qu'Apollinaire avait l'accent du Midi.
C'est vrai qu'au début, il lui a dit « tu as l'accent du Sud ».
Charles Armand Klein.
C'était pas vraiment les accents, c'était les tournures du Sud. la façon qu'on avait de répéter les mots, de dire de partout, enfin des choses comme ça.
Je suis été au moulin, je suis
par
été...
Par exemple, oui, ce sont des tournures locales du Midi.
Et puis l'entente d'Italien aussi, car il y a beaucoup d'émigrés piémontais qui viennent travailler comme ouvriers dans la, pour la modernisation de la région.
Il s'invente une langue,
oui.
Il utilise des agendas, notamment un agenda russe sur lequel il va recopier des alphabets à la fois réels mais aussi imaginaires.
Effectivement, il avait d'innombrables carnets. André Salmon disait « Nous sommes la génération des bouts de papier ».
Ça sert un peu d'atelier, de laboratoire, c'est, de lieu où il va
c'est
se retrouver avec ses alambics. Est-ce que ces alphabets ne sont pas aussi des pierres fondatrices de ce que sera sa recherche sur le graphisme, sur la typographie, absolument, et sur ce que deviendront les idéogrammes?
Oui. Ce qui l'intéresse d'abord, toutefois, c'est la parole et la lettre. Et au début, quand il commence à faire des poésies picturales, il les appelle idéogrammes lyriques. Et donc il s'intéresse aux idéogrammes et il voit effectivement dans les alphabets, comme l'écriture égyptienne, l'écriture chinoise, que les lettres mêmes peuvent être expressives. Et donc il s'intéresse dès le départ au côté sémiotique, mais aussi visuel de l'écriture. Et le fait de passer son temps à la fois à écrire et à dessiner, à réunir ces deux moyens d'expression, montre que dès le départ, il est très sensible à l'apparence visuelle de la page poétique. La composition d'un poème est quelque chose d'ardu, en fait. Et il se donne un moment de réflexion et il griffonne dans la marge.
Alors que griffonne-t-il dans la marge? Des têtes de face,
souvent,
de profil?
Souvent des têtes. Il est fasciné par les gens, mais aussi des caricatures, des monstres.
Des grotesques.
Des grotesques. Et très souvent des gens qui dansent. Il a toujours aimé la danse. Et,
c'est une figure nietzschéenne, ça. C'est une figure de la joie, voilà, de la libération.
La joie de danser au soleil.
Oui, il fait beaucoup d'essais et il signe non pas Guillaume Apollinaire, parce que c'est un peu tôt, mais il signe Guillaume Macabre. On parlait justement de cet aspect un peu sombre, un peu torturé. Et puis, il va perdre la foi aussi, à un moment, après cette piété, quand il va avoir 16-17 ans. On le voit justement devenir anticlérical, anarchiste, il va se mettre à douter, en fait. Mais avec la culpabilité de celui qui justement abandonne une ferveur qui est probablement pour lui attachée à l'enfance. Donc à une forme d'innocence et d'élan, justement, qu'il va retrouver autrement, mais certainement pas sous cette forme-là.
Cet élan va se traduire aussi par l'appétit des livres, l'appétit de la lecture.
Ah, c'est un lecteur compulsif.
Alors que lit-il ?
Tout. Tout ce qui lui passe sous la main, ça va être des almanachs, des livres rares et curieux.
Nostradamus.
Les poètes symbolistes aussi, beaucoup, hein, font partie de sa formation, façonnent justement sa façon d'écrire les vers et même la musique qu'il aura dans l'oreille. Il y aura Mallarmé, Henri de Régnier, il va aussi aller voir du côté de Rimbaud, de Baudelaire.
Et puis du côté des Glorieuses Aînés, Villon.
Et puis évidemment, alors là, c'est peut-être une de ses premières amours. Hein. François Villon, qui va rester toujours très très présent, dont on retrouve des accents dans la chanson du Mal-aimé, par exemple.
Et je chantais cette romance en 1903, sans savoir que mon amour a la semblance du beau phénix. S'il meurt un soir, le matin voit ça.
Il fallait que ça arrive.
C'est extraordinaire.
C'est, oui, mais il n'y a pas de hasard au fond, d'une certaine manière. Sa mère a déménagé, donc Angelica n'habite plus à Paris, elle a déménagé à Chatou. Et puis donc un dimanche, se promenant au bord de la Seine, il rencontre deux peintres. Et là, la rencontre se fait justement de façon spontanée. Et ces deux peintres sont Derain et Vlaminck, qui sont amis. Mais non pas Derain et Vlaminck tels que nous les connaissons, mais bien deux peintres qui sont encore passablement inconnus, qui cherchent. Et il voit sur la toile effectivement des choses absolument inouïes, des cieux qui sont rouges, une Seine qui est bleue au lieu d'être verte, des arbres oranges.
On est en plein fauvisme.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui va se retrouver en 1905 au Salon d'automne et qui va faire scandale dans le sillage de Matisse. Mais justement, il rencontre Derain et Vlaminck un peu avant, en 1904, et donc c'est en train de se faire. C'est en train de se faire de la même manière quand il va rencontrer justement en 1905 Picasso. Picasso est un petit peu plus connu, mais ce n'est certainement pas le géant que nous connaissons maintenant.
À cette même époque, donc nous sommes dans les années 1906-1907, Apollinaire compose un livre étrange, Les 11 000 verges. De quoi s'agit-il exactement ?
C'est un livre dans lequel, pour paraphraser Baudelaire, on pourrait dire qu'il a mis... Il a mis toute sa haine et tout son désespoir.
C'est un livre effroyable.
C'est un livre effroyable.
Et drôle à la fois.
Et drôle à la fois, mais c'est tout lui. En fait, il a écrit la guerre russo-japonaise vient de se terminer, est en train de se terminer. Il l'écrit dans le même mouvement. Il est encore inconnu, même s'il est un peu connu dans les milieux littéraires et qu'il a publié des contes et des poèmes dans les revues. Il n'a pas écrit de livre, il n'a pas publié de livre. En fait, les 11 000 verges sont son premier livre publié. Mais ce n'est pas sous son nom. Les initiales GA, imprimées à Montrouge chez un éditeur spécialisé, diffusées sous le manteau, inspirées par toutes ces lectures, justement, de la Mazarine ou de la Bibliothèque de Nice.
Les romans libertins anciens.
Voilà, romans libertins, Sade, bien sûr. Je crois qu'en fait, il y a déversé, c'est une sorte d'exutoire. Il y a déversé toute son impatience à devenir connu, le fait qu'il dépende encore de sa mère, donc une forme de misogynie, il est très très cruel, il y a beaucoup de cruauté, une violence qui n'est pas contenue.
Il choisit de plagier, non pas l'arétin, non pas Boccace,
qui l'a traduit.
Qui l'a traduit énormément, puisque ça fait
Alexandre Dupuy,
mais c'est un boulot énorme, et ça il le fait à 19 ans, donc quand il a 25 ans, ça fait déjà quelques années qu'il s'est attelé à ça, mais je le souligne, il a toujours rien publié. Donc il manipule les bouquins de gens qui s'appellent Momas, qui s'appellent Le Nîmois. Il y rajoute un peu de Sade, un peu de Rabelais, et surtout il présente Apollinaire. Et Picasso, son pote, la disait, c'est le chef-d'œuvre d'Apollinaire. Bon, toujours provocateur, hein, Picasso bien sûr, c'est les 11 000 verges. Et là, il transcende complètement un espèce d'art, un espèce de style, à la façon de Kubrick qui va nous faire un 2001 en s'attaquant un jour à la science-fiction et d'autres films à succès dans des thèmes différents, ou l'impression d'un Polanski qui va s'attaquer au fantastique quand il nous fait le bal des vampires. C'est-à-dire que le fond, le sujet est complètement dépassé par la personne qui s'y attelle. Il veut montrer que c'est lui, il veut montrer ce qu'il peut faire avec une plume du haut de ses 25 ans et qu'il entre en littérature avec ses 11 000 verges.
Oh, mademoiselle ! Mademoiselle ! Mademoiselle ! Mademoiselle ! Je ne vous ai pas plutôt aperçu que... Tout d'abord, j'ai senti mes organes génitaux se tendre vers votre beauté souveraine. Et je me suis trouvée plus échauffée que si j'avais bu un verre de raki.
Choki ?
Je n'ai jamais ma fortune et mon amour à vos pieds. Si je vous tenais dans un lit, 20 fois de suite, je vous prouverais ma passion. Que les 11 000 vierges, ou même que les 11 000 verges, me châtient si je mens.
Il y a cette forme de barbarie, de violence quasi archaïque, et puis c'est comme s'il voulait essayer finalement, s'il avait essayé et réussi, à aller le plus loin possible dans une forme d'horreur et de morbidité.
Je
parce que c'est là qu'Apollinaire nous viole, il nous en donne encore plus.
Laurence Campa, 1907 marque un tournant dans la vie de Guillaume Apollinaire. Il quitte le domicile maternel et il décide de vivre de sa plume.
Et surtout, il rencontre Marie-Louise Laurence. Alors voilà, c'est ça aussi qui fait après justement cet exutoire des 11 000 vers, cette violence, cette passion mortifère. Il rencontre un amour sincère et vrai et partagé.
Et serein.
Serein.
Au début.
Oui, et de temps en temps, on pourrait dire. Car pendant les 5 ans qu'a duré cette liaison, il y a eu beaucoup d'orages. On sait qu'il n'a pas toujours été fidèle, qu'il n'a pas toujours été attentif. Marie aussi, Marie était une femme moderne. Elle avait ce côté indépendant. Après tout, elle vivait de son art. Elle vivait avec sa mère, mais elle vivait de son art. Mais ils se sont inspirés, ils se sont trouvés.
Parce que les poètes...
Marie Laurencin.
Ce sont les seuls qui ont des idées. Les portraits des poètes ont une ressemblance psychique avec le modèle. Plus qu'une vraie ressemblance.
Il ressemblait un peu à un Père Ubu. Il était gros, massif et une figure en forme de poire.
Je crois que les hommes, les souvenirs, les hommes aiment rester entre eux. Ils aiment parler entre eux. Et quand ils sont avec des femmes, les femmes les gênent plutôt. Alors, Guillaume Apollinaire ne lisait pas grand-chose devant moi. Guillaume Apollinaire, je l'ai vu quand il devait écrire le bestiaire. Eh bien, c'était une grande souffrance pour lui. Il a écrit le bestiaire avec difficulté, qui est une chose très belle. J'aime beaucoup le bestiaire de Guillaume Apollinaire.
C'est un très beau recueil parce que...
Cortège d'Orphée.
Très beau parce que justement... Apollinaire a voulu la forme brève. Ce sont des quatrains ou des quintiles, donc des poèmes très courts, qui ressemblent un petit peu à une forme un peu carrée en quelque sorte.
Et avec ces 4 dromadaires, dont Pedro d'Alfa Ruberas, courut le monde et l'admira, il fit ce que je voulais faire.
Si j'avais 4 dromadaires. Voilà, il y a à la fois de l'humour, de la mélancolie, c'est très personnel, très intime, mais c'est une sorte de portrait. Prismatique et de portraits, d'autoportraits, biaisé aussi. On va choisir un animal comme on faisait au Moyen-Âge, hein, ça ressemble aux emblèmes, aux bestiaires du Moyen-Âge. Un animal, mais qui justement n'aura pas forcément les caractéristiques qu'on lui prête traditionnellement, mais qui sera investi des caractéristiques que le poète voudra leur conférer. Et ce qui est très très beau aussi, évidemment, c'est qu'il est illustré par Raoul Dufy. Et en fait, il faut voir, on voit toujours dans les éditions les plus courantes...
Ce sont des bois gravés.
Dans les éditions les plus courantes, on voit les choses en tout petit, mais il faut s'imaginer la première édition, qui est en grand volume, c'est comme l'Enchanteur pourrissant. C'est très très beau, parce que c'est imprimé à la main, il y a très peu d'exemplaires. Et Apollinaire voulait un beau livre d'artiste à destination des bibliophiles.
Au XIXe siècle, et pour le symbolisme, le poète voulait prendre à la musique son bien. Comme disait Mallarmé, Verlaine, pour Verlaine, c'était de la musique avant toute chose. Mais Apollinaire marque une transition où le poète veut finalement prendre au peintre son bien. Et la force de sa poésie, c'est souvent la force des images. Et le renouveau de l'expression par l'invention d'images qui correspondent à notre vie urbaine contemporaine. Et donc l'image est présente et dans l'écriture et dans l'ornementation des textes. Dans Le poète assassiné, il décrit son personnage principal, Cronia Montale, avatar d'Apollinaire, en quelqu'un qui avance dans la rue et ses yeux qui s'ouvrent et se ferment devant le spectacle qui l'attend dans la rue. Ce sont comme deux bouches qui consomment et qui avalent tout ce qu'ils voient et qui voudraient avaler tout l'univers, en fait.
Les inscriptions des enseignes et des murailles, les plaques, les avis, à la façon des perroquets criaillent. J'aime la grâce de cette rue industrielle située à Paris, entre la rue Aumont-Thiéville et l'avenue des Ternes.
Apollinaire était très proche des peintres dès le départ. En 1903, son premier ami peintre, en fait, était un peintre norvégien nommé Edvard Dieriks, le peintre du vent. Et dans un de ses poèmes sur les prophéties, Apollinaire dit « J'ai connu un sourcier. Il s'appelait Dieriks. » Et donc Dieriks, peintre norvégien, était un véritable sourcier. Il savait retrouver des sources d'eau. Et à mes yeux, Apollinaire était aussi un sourcier. Et donc, il avait une sensibilité, au début, très intuitive.
Oui, une sensibilité d'enfant, qui voit là où il est.
Absolument, il n'avait pas de préjugés comme un enfant. Dans la chanson du Mal-aimé, il dit d'ailleurs, comment faire pour être heureux comme un petit enfant candide. Et donc, il a cherché à conserver cet esprit de pureté et d'ouverture d'esprit et d'imagination libre qui caractérise peut-être l'enfance.
Cette liberté, cette ouverture va lui faire aimer à la fois l'art nègre, l'art dans les tranchées et puis le travail d'un Picasso, d'un Braque, d'un Fernand Léger.
Ce qui me frappe, moi, c'est ses choix esthétiques. Ses choix esthétiques. C'est, à partir de Dieriks, ses premiers amis peintres étaient Derain et Vlaminck. Puis, en 1905, grâce à son ami Jean Mollet, il entre en contact.
Baron Mollet.
Le Baron Mollet, c'est le Baron Mollet qui connaissait Picasso, qui a emmené, il a dit à Picasso, Mollet, il faut que je vous présente quelqu'un, je vais vous présenter un poète qui s'appelle Guillaume Apollinaire. Et donc, Mollet a fait sortir Picasso de son atelier du bateau Lavoir, ce qui n'était pas facile. Picasso ne quittait guère Montmartre à cette époque. Et à pied, ils sont descendus vers un café qui s'appelait Austin's Fox et qui existe toujours, qui est dans, je crois, la rue de Rome, dans le quartier de l'Europe, tout près de la gare Saint-Lazare. Et là, Picasso a rencontré dans ce café Apollinaire pour la première fois. Un soir de février 1905, je pense. Et le lendemain, Picasso a pris Max Jacob par le bras et lui a dit « Il faut que je te présente quelqu'un ». Et il a emmené Max Jacob. Et les trois, à partir de là, à partir de ce moment, étaient plus ou moins inséparables. Après, c'est Apollinaire qui présente Braque à Picasso. Et c'est Apollinaire qui écrit le texte, qui rédige le catalogue de la première exposition Braque en 1908. C'est Apollinaire, fin 1907, qui publie un entretien dans une revue nommée La Phalange, un entretien avec le grand Matisse, qu'il appelait le fauve des fauves. Et jusqu'en 1907, jusqu'à la création des Demoiselles d'Avignon, c'était sans doute Matisse qui était vraiment à la pointe de l'avant-garde picturale en Europe. Et en 1907 même, Apollinaire publie un très important entretien avec Matisse qui donne à Matisse, pour la première fois, l'occasion de s'exprimer sur ses propres visées, sur son esthétique, sur le sens de sa trajectoire. Et Matisse a conservé une version manuscrite de la main d'Apollinaire de cet entretien qui lui servira l'année suivante de base pour ses très célèbres notes d'un peintre qui sont, à vrai dire, son premier manifeste sur son œuvre. À partir de là, il était autodidacte. Il parcourt des kilomètres de peinture dans les grands salons. Au Salon des Indépendants, il y avait 6000 tableaux accrochés. Apollinaire dit lui-même, je parcours des kilomètres de peinture. Mais quand il va dans ces grands salons, sur quels artistes écrit-il? Bon, il essaie de représenter pour ses lecteurs un panorama. Mais quand il veut souligner un peintre, ce sont quels peintres? C'est Delaunay, c'est Chagall. Il est le premier critique en France à reconnaître la grandeur de Chagall. C'est Apollinaire qui découvre Quirico. Et dès l'arrivée de Larionov et Goncharova à Paris, c'est Apollinaire qui cherche à les connaître, qui écrit sur leur œuvre. Et comme pour Chagall, comme pour Quirico, Ce sera la même chose pour Larionov et Goncharova. Apollinaire arrive à leur trouver un marchand d'art. En l'occurrence, c'est souvent Paul Guillaume. Pour Chagall, c'est aussi Herwart Walden, qui permet donc à Chagall d'avoir une exposition à Berlin. Mais Apollinaire fait tout pour faire la promotion de ces artistes. Donc non seulement il les présente pour la première fois avec des mots d'une grande beauté très souvent, la passion d'Apollinaire pour un peintre se sent surtout dans la beauté du texte. Il voulait être un passeur, il voulait faire entrer ses lecteurs dans le monde secret des ateliers.
Tu es à Paris, chez le juge d'instruction. Comme un criminel, on te met en état d'arrestation. Tu as fait de douloureux et de joyeux voyages avant de t'apercevoir du mensonge et de l'âge. Tu as souffert de l'amour à 20 et à 30 ans. J'ai vécu comme un fou et j'ai perdu mon temps. Tu n'oses plus regarder tes mains, et à tout moment, je voudrais sangloter sur toi, sur celle que j'aime, sur tout ce qui t'a épouvanté.
Jean-Yves Le Naour, je souhaiterais vous interroger sur l'affaire du vol de la Joconde. Une affaire qui a largement défrayé la chronique en son temps et qui a placé Apollinaire en première ligne. Alors j'aimerais comprendre pourquoi les soupçons se sont portés sur lui.
Au départ, les soupçons se sont d'abord portés sur son secrétaire. Parce que le malheur d'Apollinaire, c'est d'avoir eu un secrétaire qui avait tendance à voler, qui n'était pas quelqu'un de très sérieux, qui jouait aux courses, qui dépensait beaucoup d'argent.
C'était un nègre fin, on peut le dire.
Oui, mais il avait quelque chose de flamboyant tout de même. Hein. Il s'essayait un peu à la littérature. Il avait parfois de grosses rentrées d'argent qu'il perdait en quelques jours. Il a inspiré Apollinaire dans une de ses nouvelles, Le Baron d'Ormaison. Et ce Géry Pierret, en 1907, alors qu'il est hébergé par Apollinaire, il lui sert à la fois en quelque sorte de domestique et puis de secrétaire, il va voler au Louvre dans la salle des antiquités ibériques, deux statuettes qu'il va proposer à Apollinaire. Apollinaire se récrie, il incite à rendre ses statuettes au Louvre, mais il n'en fait rien, il préfère en tirer un peu d'argent, et il va les proposer à Pablo Picasso, qui est l'ami de Guillaume Apollinaire. Il paraît que ces statuettes ont inspiré Picasso pour les Demoiselles d'Avignon. Quand la Joconde est volée, Apollinaire n'est pas du tout d'humeur potache. Il dénonce ce scandale et il écrit un article dans l'Intransigeant du 24 août 1911, donc 3 jours après le vol, pour dénoncer l'incurie du musée du Louvre. Le musée du Louvre est plus mal gardé qu'un musée espagnol, dit-il, hein, ce qui est donc une véritable insulte hein, pour le Louvre. Ce qu'il ne sait pas, c'est que dans quelques jours, il sera soupçonné de cet incroyable forfait. C'est le casse du siècle, aucun doute là-dessus, et toute la presse en parle.
Alors là où les choses vraiment prennent une dimension véritablement dramatique, c'est qu'il y a une sorte de politisation de l'affaire.
Guillaume Apollinaire est à la fois dénoncé, combattu, comme un juif, peut-être à la tête d'une bande de receleurs ou de voleurs internationaux, cosmopolites, hein, comme on dit. Apollinaire est très blessé par toutes ces attaques. Il est d'opinion quand même conservatrice, et être accusé de juif dans le milieu conservateur n'est pas particulièrement bienvenu. Son frère, par exemple, va écrire à la presse pour dire « Nous sommes des catholiques romains ». Puis il y a aussi une inquiétude chez Apollinaire qui est « Je ne suis pas français, je pourrais très bien être expulsé. Et or, ma vie est là, est en France. » Il y a cette blessure. Ensuite, avoir été mis à nu avant d'entrer dans sa cellule, car il est arrêté, il est emprisonné. Donc il y a une grande honte, une grande humiliation dans cette affaire pour Guillaume Apollinaire.
Tu observes les yeux pleins de larmes ces pauvres émigrants. Ils croient en Dieu, ils prient, les femmes allaitent des enfants. Ils emplissent de leur odeur le hall de la gare Saint-Lazare. Ils ont foi dans leur étoile comme les rois mages. Ils espèrent gagner de l'argent dans l'Argentine, puis revenir dans leur pays après avoir fait fortune.
Il va faire l'expérience de la solitude fondamentale. Et ce qui va revenir aussi de façon assez forte, c'est son origine obscure. C'est-à-dire que tout ce personnage qu'il s'était attaché, acharné à construire avec ce pseudonyme, avec cette identité de poète, de langue française, de journaliste, de défenseur du cubisme, etc., va non pas s'écrouler parce qu'au contraire, il y a beaucoup de gens qui vont le soutenir, beaucoup d'amis, beaucoup d'inconnus aussi qui vont signer des pétitions en sa faveur, mais son nom va être à nouveau traîné dans la boue, on va retrouver ce nom polonais imprononçable, inorthographiable, on va supposer qu'en fait il était du dernier bien avec le voleur, etc. Il va y avoir des articles de Léon Daudet, des articles antisémites d'une violence extrême,
ignoble.
Et totalement ignoble, absolument, qui vont subodorer qu'il faisait partie d'une bande cosmopolite de grand banditisme, etc. Et donc, lui, qui était plutôt d'un naturel assez bénin et paisible, au fond, finalement, donc va se retrouver traîné dans la boue et il va en être profondément atteint au point qu'il va songer à demander la nationalité française. Puis bon, les choses vont se tasser, il va obtenir un non-lieu en janvier 1912, ça va rester comme ça. Il aurait dû peut-être pousser la chose, puisque justement, c'est quelque chose qui revient à nouveau en 14 quand la guerre éclate et que, heureusement, il est russe. Mais il aurait pu être prussien.
Tu es devant le zinc d'un bar crapuleux. Tu bois un café à deux sous avec des malheureux. Tu es, la nuit, dans un grand restaurant. Ces femmes ne sont pas méchantes. Elles ont des soucis, cependant. Toutes, même la plus laide, a fait souffrir son amant. Elle est la fille d'un sergent de ville de Jersey. Ses mains que je n'avais pas vues sont dures et gercées.
Laurence Campa, 1913, c'est une année décisive pour Apollinaire, puisque c'est une année d'une grande richesse éditoriale. Il publie son recueil « Alcool ».
Enfin, dirait-on, enfin. Il était attendu depuis longtemps, ce recueil. Et en fait, il rassemble des poèmes qui ont été publiés depuis sa jeunesse. Hein. Les premiers poèmes, 1898-99, jusqu'en 1912, jusqu'à Zone et Vendémiaire, qui sont les dernières en date. Hein.
Zone, qui est le poème inaugural, qui est un poème assez déconcertant, enfin, tout au moins très surprenant.
Le vers libre avait été utilisé avant lui, mais ce sont plutôt les cadences tout à fait singulières qu'il utilise. C'est évidemment d'emblée
l'absence de ponctuation
qui change complètement le regard, puisque cette béquille de la ponctuation finalement disparaît, ou ce carcan de la ponctuation qui est un carcan normatif disparaît. Donc là aussi, grande liberté, parce qu'au fond, c'est le rythme du vers qui va imprimer justement la cadence, le tempo de la parole, et que le lecteur aussi aura le choix dans certaines césures. Il pourra lire les choses un petit peu comme il veut. Et puis ce qui est tout à fait nouveau aussi, c'est non pas l'utilisation de la modernité, des avions, de la tour Eiffel, ce genre de choses qu'on retrouve dans d'autres poèmes de l'époque, mais c'est plutôt...
Le décalage.
Voilà, le décalage et les alliances avec des réalités comme la figure du pape.
Le pape et la tour Eiffel.
Voilà, c'est ce mariage, hein, justement, qu'on trouve dès le premier vers, au fond. À la fin, tu es là de ce monde ancien. Si je fais la diresse, c'est un alexandrin de la plus belle eau. Et pourtant, c'est en train de dire exactement le contraire. Bergère, au Tour Eiffel, le troupeau des ponts belles ce matin. Je le scande d'une manière un petit peu classique, mais je pourrais aussi justement le faire autrement. Donc on a cette espèce de tremblement, si je puis dire, d'incertitude tout à fait moderne dans le rythme et dans l'image aussi. La bergère qui est une image classique, en quelque sorte, et la tour Eiffel et les ponts qui ne le sont pas. Et puis l'utilisation du calembour, les changements de ton.
Tout ça introduit de la bizarrerie.
Oui, de la bizarrerie, de la curiosité, de la surprise en fait. La surprise était un élément créateur au sens propre du terme. Et qu'à chaque fois finalement que l'alliance se fait, il en surgit une sorte d'étincelle ou d'alchimie ou de distillation, puisqu'on est dans les alcools, hein, justement, de spiritualisation, je ne sais pas comment on pourrait dire, qui crée une nouvelle réalité, exactement à la manière dont les tableaux Picasso pouvaient le faire.
Éclate la guerre et pour Apollinaire, ça commence par une rencontre, une très belle rencontre, une rencontre déterminante.
Une rencontre avec une femme qui est une aristocrate, la comtesse Louise de Coligny-Châtillon, qui est en fait comme lui descendue à Nice après la déclaration de guerre et qui sert plus ou moins d'infirmière bénévole. Tout moins que plus. Et lui est désœuvré parce qu'il a fait une demande d'engagement et de naturalisation qui est restée sans suite. Donc, ne sachant que faire, à l'invitation d'un ami, il descend justement. Et c'est là qu'il la rencontre à la fin de septembre.
Où la rencontre-t-il ?
Dans un restaurant du Vieux-Nice qui s'appelle Dabuto. Donc, il la rencontre et il en tombe immédiatement amoureux. Et il va se déclarer immédiatement. C'est aussi prompt que la déclaration de guerre, en quelque sorte. C'est aussi surprenant. Et en fait, c'est une femme assez frivole. Elle est divorcée, elle est libre. Elle ne compte pas du tout s'attacher, mais qu'on ne comprend pas grand-chose à la poésie.
C'est une femme très affranchie.
On voit des photos d'elle.
Pilotant un avion.
Oui, très joueuse, très probablement, et se construisant un personnage comme ces personnages de la haute société qui justement n'ont... sont capables de s'affranchir des normes sociales parce qu'elles se sentent au-dessus, justement. Et je crois que ce qu'elle a beaucoup apprécié, qu'elle n'avait peut-être pas rencontré avant, chez lui, en dehors de ce côté très courtois qu'il a eu, parce que justement, il a voulu faire le chevalier, c'est le... Elle a compris la puissance de la parole dans l'amour. Et très certainement, c'est lui qui lui a fait comprendre que les mots, que la parole, que le langage pouvait avoir une dimension érotique qui passait le simple vocabulaire qu'on trouve la plupart du temps dans ce genre de circonstances.
Il y avait véritablement entre eux un échange charnel très très puissant.
Oui, parce que, bon, elle n'était pas farouche, et lui...
Ce n'était pas qu'une affaire de jolis mots amoureux.
Ah non, certainement pas, ça a été extrêmement intense, et c'est justement peut-être ce qu'il a le plus... ce qui lui a le plus plu chez elle, c'est justement cette grande liberté, cette manière de vivre l'amour sans culpabilité, sans contrainte. Il lui dit à un moment, le vice n'entre pas dans les amours sublimes. Mais en fait, il n'a quasiment pas besoin de lui dire, parce que ils sont au-delà de la transgression. Donc il trouve pour la première fois une femme qui est vraiment totalement libre et qui lui rappelle ses héroïnes des romans libertins du XVIIIe siècle, comme la Félicia d'Andrea Nercia, qui d'une certaine manière, d'un point de vue amoureux, hein, de l'amour charnel, est en quelque sorte son égale.
On peut même dire qu'ils partageront des plaisirs sadomasochistes.
Oui, alors quand on lit en tout cas les lettres, c'est ce qu'on peut en conclure. Puis elle, justement, elle n'a peur de rien, elle se prête à tout.
Il lui écrit, j'ai trouvé un nouveau martinet, une nouvelle cravache, on va l'essayer dès qu'on va se retrouver.
Oui, c'est à la fois, effectivement, ce n'est pas que fantasmatique, c'est tout à fait... Mais le problème, c'est que le corps, chez Apollinaire, ne peut pas aller sans le cœur, et que Lou lui déclare d'emblée, pour le coup, elle a été franche, qu'elle ne l'aimera jamais. Et donc, il comprend assez vite que finalement, cet amour est sans issue.
Oh, Lou, mon seul amour. Oh, mon esclave enfui. Notre amour qui connut le soleil, pas la pluie, fut un instant trop court. La mer nous regardait de son œil tendre et glauque, et les orangers d'or fructifiaient pour nous. Ils fleurissent encore, et j'entends la voix rauque des canons allemands crier sur Mourmelon, appel de la tranchée. Oh l'eau, ma rose atroce, es-tu toujours fâchée avec des yeux de plomb? Oh l'eau, démon enfant au baiser de folie, je te prends pour toujours dans mes bras, ma jolie.
Chaque lettre, il suit en fait le cours de la guerre au jour le jour, en instantané, comme vous le dites, et il exprime dans ses lettres et dans ses poèmes l'immédiateté, je dirais, de l'expérience du soldat au front, avec le spectacle incroyable des explosions, le bruit, le danger, les longues heures d'attente avant la prochaine attaque. Et dans ses lettres, il incluait aussi, effectivement, de petits dessins qui sont des autoportraits, comme s'il veut fixer pour toujours la légende de Guillaume Apollinaire, poète, critique d'art et militaire. Il dessine beaucoup, finalement, surtout pendant la période où il est artilleur. Il est à quelques distances des tranchées de première ligne et il a un peu plus de temps. Et donc, il lime des bagues qu'il envoie à ses amoureuses. Il envoie aussi une bague à Picasso, une sorte d'art populaire. Il avait énormément de respect pour l'art populaire et il s'en est souvent inspiré des chansons populaires dans ses poèmes, de l'art populaire, les illustrations de journal, les enseignes de boutique, etc., dans ses dessins. Et un de ses plus beaux dessins, d'ailleurs, c'est sur une boîte en aluminium qui appartient maintenant à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet.
C'est un dessin qui est gravé sur une boîte.
Il a gravé un très beau dessin sur sa boîte à savon. Et puis, il a mis de l'encre ou de la suie dans la gravure pour que cela ressorte. Et il met comme légende du dessin « Adieu que la guerre est jolie ». Mais en fait, il faut lire tout le poème. Et le poème passe de l'adieu, expression d'émerveillement, devant le spectacle de la guerre, devant ce spectacle inouï, des fusées, des obus, des explosions.
L'horrible horreur, écrit-il.
L'horrible horreur, écrira-t-il après. Mais avant de partir au front, il a suivi son entraînement à Nîmes. Et dans la caserne à Nîmes, il écrit dans un autre poème, « Et ce pâle blessé m'a dit à la cantine, des obus dans la nuit, la splendeur argentine. » Et quand on regarde la gravure d'Apollinaire, on lit ce vers, à la fois choquant, émouvant. Il avait conscience de la force de ce vers, parce qu'il l'a extrait du poème, et il l'a écrit, il l'a inscrit sur sa boîte à savon. Et puis, au-dessus du vers, on voit deux militaires. Le soldat que l'on voit à droite du dessin, d'ailleurs, c'est Polichinelle. Si on regarde bien, c'est Polichinelle en uniforme.
Polichinelle, qui est une des figures de prédilection d'Apollinaire.
Absolument.
Avec Arlequin.
Absolument. Arlequin et Polichinelle, parce que ce sont des forces vitales, indomptables. Et donc la guerre, c'est l'enrégimentation des êtres humains. Et les deux militaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de regarder une explosion dans le ciel. Et cette explosion est...
C'est un soleil.
Est un soleil. C'est magnifique en quelque sorte. Mais c'est assez proche tuer les deux hommes qu'il regarde. Et donc, il y a cette ambivalence. La guerre peut être une beauté d'un certain point de vue, mais c'est une beauté mortelle.
Je voudrais que tu sois la nuit pour nous aimer dans les ténèbres. Je voudrais que tu sois ma vie pour être par toi seul. Je voudrais que tu sois un obus Bosch pour me tuer d'un soudain amour.
Laurence Campa, en 1917, à quelques semaines d'intervalle, ont lieu deux événements de la scène artistique parisienne. Je parlais de Parade, d'une part, et Les Marmelles de Tirésias.
Surprise aussi. Surprise pour Parade, le ballet de Cocteau avec des décors de Picasso.
Ça a fait du bruit dans le Landerneau.
Ça a fait du bruit, peut-être un peu moins sur le moment qu'on a voulu le dire par la suite, mais on avait besoin de créer l'événement, si je puis y parler en termes anachroniques. Et Les Mamelles de Tirésias, qui sont justement une création loufoque sur une base, qui est une base qu'Apollinaire avait choisie, qui était une base de repopulation, justement, d'exaltation des puissances de vie contre la mort et la destruction.
Mais c'est en même temps une œuvre très, très drôle et
œuvre
très déroutante.
Œuvre féministe aussi, puisque c'est une femme qui refuse de faire des enfants, qui veut devenir général, mathématicien, qui perd ses mamelles et qui s'en va.
Et qui décide de devenir un homme.
Voilà. Et dont le mari est obligé de faire des enfants, voilà, tout seul. Mais il en fait des milliers.
Et oui, c'est simple comme un périscope. Plus j'aurai d'enfants, plus je serai riche et mieux je pourrai me nourrir. Nous disons que la morue produit assez d'œufs en un jour pour qu'éclos, il suffise à nourrir de brandade et d'aïoli le monde entier pendant une année entière. N'est-ce pas que c'est épatant d'avoir une nombreuse famille ? Mais quels sont donc ces économistes imbéciles qui nous ont fait croire que l'enfance était la pauvreté, tandis que c'est tout le contraire ? Est-ce qu'on n'a jamais entendu parler de morue morte dans la misère ? Aussi vais-je continuer à faire des enfants.
Mais elle revient. Mais on ne revient pas au point de départ, en fait. Elle revient, mais ils décident de se remettre ensemble, mais on a gagné une forme de liberté entre les deux, et c'est aussi la leçon de la pièce. Et c'est aussi une manière de peindre la femme moderne.
Mais il me semble que la barbe me pousse, ma poitrine se détache.
Apollinaire, en se situant à la conjonction des arts et des techniques, était particulièrement fasciné par des mutations technologiques de son temps. Je veux parler du gramophone, du cinéma et de la radio. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ?
Mais Apollinaire a même dit à un moment que le livre est condamné. Il disait « à l'avenir, les poètes vont travailler dans le cinéma. » Et lui-même, qui avait fait enregistrer certains de ses poèmes, notamment le Pont Mirabeau, avait été émerveillé par les possibilités de ces nouvelles technologies. Et donc Apollinaire avait là aussi ce don prophétique de prévoir l'avenir. Je pense qu'un de ses plus beaux poèmes, c'est peut-être son premier calligramme.
Lettre océan,
voilà. C'est un poème panoramique, on dirait deux soleils. Et on voit le mot Maya sur la page de gauche. Et le frère d'Apollinaire, mon frère Albert, se trouvait à ce moment-là au Mexique. Et donc la lettre océan s'adresse à son frère Albert au Mexique.
Guillaume est inquiet parce qu'éclate la révolution mexicaine.
Absolument, son frère est en danger et donc il essaie de communiquer avec son frère.
Il essaie de communiquer par l'écrit, mais aussi par les ondes.
Par les ondes. On voit des lignes serpentines qui expriment des ondes, et c'est l'océan qui sépare l'Europe de l'Amérique.
Mais ce sont à la fois aussi les ondes de l'océan, mais les ondes sonores de la radio.
Ce sont aussi des ondes de la TSF, et on voit les lettres majuscules TSF. Et ce qu'on croit être un soleil maya, c'est aussi, quand on déchiffre le texte, une image de la tour Eiffel, car on lit sur la rive gauche, devant le pont d'Iéna, au centre de ce soleil maya. Et donc, qu'est-ce qui est sur la rive gauche devant le pont d'Iéna ? C'est la tour Eiffel. Et donc, on se rend compte que c'est une vue de la tour Eiffel, vue à vol d'oiseau depuis un avion. Et la tour Eiffel, à cette époque, comme maintenant, était à la fois récepteur et transmetteur. Et donc, Apollinaire communique avec l'Amérique, avec le Mexique, dans son poème, par les ondes de la radio. Et donc, ce poème est à la fois un paysage mexicain, mais aussi un paysage parisien.
Tu marches vers Auteuil, tu veux rentrer chez toi à pied, dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée. Ce sont les crises d'une autre forme et d'une autre croyance. Ils sont les crises inférieures des obscures espérances. Adieu. Adieu. Soleil. Coup. Coupé.
Odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. Et souviens-toi.
Une vie, une œuvre, Guillaume Apollinaire.
J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte. Souviens-toi.
Nous ne nous verrons
plus. Peter Will, près d'un siècle après la disparition d'Apollinaire, que reste-t-il en héritage, selon vous?
Je pense que c'est Apollinaire, par ses choix esthétiques, qui a contribué plus que quiconque d'autre à établir le canon de notre modernité. Et quand on visite le Musée national d'art moderne, par exemple, les œuvres qui sont mises en valeur du côté historique de notre modernisme, ce sont des œuvres de Kandinsky. Apollinaire était en correspondance avec Kandinsky. Les œuvres de Kandinsky, de Mondrian, de Quirico, des néo-primitivistes russes, Chagall et les autres.
Tout ce panorama du XXe siècle qu'Apollinaire avait repéré.
Le fauvisme qu'il avait défendu, le cubisme qu'il avait défendu, l'art abstrait sur lequel il a écrit de très beaux textes. C'est Apollinaire qui, le premier, a fait une édition des œuvres du Marquis de Sade, qui est maintenant disponible dans toutes les librairies. Apollinaire était le premier poète à introduire dans la poésie et la prose de fiction en France le vocabulaire de la psychanalyse, car Apollinaire était ami d'un interne à Sainte-Anne et il fréquentait l'hôpital Sainte-Anne. Il allait dîner à Sainte-Anne et il regardait avec cet ami Jean Vinchamp les peintures des patients de Sainte-Anne. Et le fait que lui, il ait dit, il a écrit dans un de ses poèmes, profondeur de la conscience, on vous explorera demain.
J'ai eu le courage de regarder en arrière les cadavres de mes jours.
Avec Laurence Campa, éditrice et biographe d'Apollinaire, Peter Reed, professeur à l'Université du Kent, Jean-Yves Le Naour, historien, Charles Armand Klein, écrivain, et Alexandre Dupuis, collectionneur.
Et toi, mon cœur, pourquoi
vas-tu ? Lecture par Jean-Louis Trintignant. Archivina Marthe Fillot, voix de Marie Laurencin, Fernand Olivier, André Breton, Guy Charles Cross et Osep Zadkin. Son, Delphine Baudet. Mixage, Claire Levasseur. Une émission de François Connac, réalisée par Anne Franquini.
Vous pouvez podcaster cette émission et retrouver la collection Une vie, une œuvre sur la page du site sur franceculture.fr, une page préparée par Pascaline Bonnet avec l'aide de Nemo Camus. Tout de suite, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.